tua tele, dove ne les hommes, les femmes, les chômeurs, les travailleurs précaires, les exploités, les étudiants, les jeunes, contre ces conditions qui reproduisent les maintenues, seulement en s'unissant pour imposer, pour faire valoir ses propres besoins, on pourra venir à bout d'une logique féroce. Logique de la rationalité du capital, la globalisation, le néolibéralisme, c'est la forme actuelle et en perspective de la domination du système du capital, de la rationalité économique et de la rationalité de l'État. Alors nous, on la considère ni fatale, pas du tout, on ne la considère pas fatale. Il y a un petit métaphore qu'on pourrait dire aux enfants, le vampire. Il semble très fort, mais il ne peut pas se passer des gens qui vampirisent. Tandis que les filles, les hommes et les femmes qui sont vampirisés, ils pourraient très bien vivre sans les vampires.
Moi, je vous propose de vous retirer, maintenant, messieurs de la police. Vous voulez bien vous écarter et vous mettre sur le côté. S'il vous plaît, nous allons rentrer, puisque personne ne nous en empêche. Je propose que paisiblement nous entrions. Et vous retirez sur le côté, gentiment. Monsieur, comme ça, il n'y aura pas de violence, en tout cas pas de
inconvénient. J'attends les ordres.
Allez, bonsoir, c'est Grégor. Chaque semaine, sur les Gaulliers ou Montpellier, Canal Sud à Toulouse et Radio Primitive sur Reims. Grégor, une parole anarchiste communiste. Bonsoir.
Bonsoir. Alors, ben, ce soir, on va vous faire notre petit cadeau à nous, puisque vous le savez, Noël tombe cette année le 25. C'est incroyable. Et évidemment, ça y est, c'est parti depuis le début du mois. C'est la fête, c'est la trêve, c'est la folie. Tout le monde est content. C'est la peine, Noël. Même Poutine devient gentil puisqu'il libère les Pussy Riot. Et on peut tous se rendre dans nos magasins pour consommer et acheter des cadeaux à nos amis, à nos proches et à notre famille pour leur prouver qu'on les aime. Évidemment, si on n'a pas de thunes, ça veut dire qu'on est non seulement déjà un imbécile, mais en plus qu'on est un salaud puisque on n'est pas capable de s'endetter. Alors, justement, on va évidemment, bien entendu, cracher dans la bisque de Omar et sur la bûche. On serait tenté de dire qu'on fait autre chose sur la bûche, mais bon, puisque nous, il n'est pas question de paix de Noël. On n'oublie pas la destruction programmée de la planète, le chômage, la crise qui continue, les sociétistes qui nous pourrissent la vie, les flics de toutes les couleurs qu'ils soient qui vivent sur notre dos. Et on va vous faire notre petit cadeau qui est évidemment une déclaration de guerre. Pour cette paix de Noël, c'est évidemment bienvenu. Cette déclaration de guerre, une guerre de classe, évidemment, une guerre contre ceux qui nous oppressent et au quotidien, tous les jours, que ce soit Noël ou pas. Alors c'est un petit son qui a été enregistré par des camarades. Pas forcément besoin de présentation supplémentaire, ça se suffit à lui-même. Vous vous installez, vous sirotez un verre de ce que vous voulez. Et on se retrouve. Bon, alors, évidemment, ça marche pas. C'était trop beau. On va partir sur autre chose et puis c'est les joies du direct.
Tiens, tu parlais justement un petit truc, petite nouvelle qui est passée inaperçue peut-être pour les Rémois, mais qui une fois n'est pas coutume. C'est un certain Nabil, le 27 novembre 2012, il y a un peu plus d'un an, qui il aurait été insulté par deux brigadiers de la police rémoise lors d'un banal contrôle routier. C'est bien sûr la version policière. Nabil a contesté, puisqu'il a appelé d'ailleurs le 17 au cours de son interpellation musclée pour se plaindre déjà justement des agissements de ces deux flics.
Remarque qu'il avait peut-être pas identifié les agresseurs comme étant des policiers.
Si je crois associé. Et après 18 heures de garde à vue, il a eu un certificat médical diagnostiquant tout simplement une entorse au rachis cervical. Alors dans ce dossier, bien évidemment, parole contre parole, les assermentés normalement gagnent toujours devant la justice. Et là, surprise, après la plaidoirie de l'avocat des deux flics, le président, écoutez bien, a rétorqué: vous ne trouvez pas que vos deux clients, on les voit un peu trop souvent comme victimes? Donc Nabil a été relaxé et les demandes d'indemnisation des policiers est rejetée. Et ces pauvres policiers n'ont pas eu de prime de Noël.
Ah, c'est dommage. Ouais. Des pauvres enfants qui vont pas avoir de cadeaux. Mais
Je remarque quand même, le journal Union, qui s'empresse toujours à donner les noms de famille et voir les prénoms. Là, on sait que c'est Nabil, hein. Mais dans d'autres cas, ils donnent le patronyme entier. Là, non. Au niveau des brigadiers, on sait juste que c'est des brigadiers. On ne connaît même pas leur prénom.
C'est dommage, puisqu'ils sont souvent victimes, ça serait bien de leur reconnaître au moins cette qualité-là, quoi.
Bien sûr.
Tout à fait. Mais c'est assez... il faut voir peut-être aussi le profil de ce Nabil, quoi. Hein. Pour une fois, lui, il a eu de la chance, puisque il a réussi à être assez crédible, et visiblement, il est peut-être tombé sur un juge qui, effectivement, en avait marre de voir tout le temps les mêmes tronches. Alors, je me retourne du côté de la technique. Visiblement, ça ne fonctionne toujours pas. C'est pas grave, on va continuer.
On va continuer. Alors, moi, j'ai des bilans du refus du fichage ADN. Alors, comme vous le savez, il y a souvent actuellement, et depuis pas mal de temps déjà, des procès pour le refus du fichage ADN. Bien souvent, les gens sont condamnés à un mois de prison avec sursis, généralement, plus, bien évidemment, une prime d'amende. Il faut dire qu'au niveau de la loi, ça peut monter jusqu'à 15 000 euros d'amende et puis un an d'emprisonnement, hein, faut le dire. Et là, quand même, ça se passe quand même de mieux en mieux. Il faut dire que au niveau de la défense, les arguments commencent à tomber. On en a parlé d'ailleurs à cette antenne il y a quelques temps. Donc il y a eu une bonne nouvelle déjà suite aux actions qui avaient été menées du côté de Valogne en novembre 2011. On en avait parlé sous cette antenne contre un train de déchets nucléaires. Une grande partie des personnes qui avaient été arrêtées se sont vues réclamer bien évidemment leur ADN. Plusieurs ont refusé et deux seulement ont été poursuivis. Alors pourquoi deux? Ça on ne sait pas. Toutes deux condamnées pour ce motif. D'ailleurs en première instance, comme je vous le disais tout à l'heure, le tarif, un mois d'emprisonnement avec sursis. En fait, ces deux personnes ont fait appel. Et puis, au stupeur, aux heureuses surprises, ces deux personnes ont finalement gagné devant la cour d'appel de Caen. La première, c'était le 31 mai 2013. Et puis récemment, le 9 décembre, la deuxième a gagné. Donc relax, et oui, devant la cour d'appel de Caen. Alors, en ce qui concerne la lutte antinucléaire, il faut dire qu'il y a d'autres procès, justement de refus d'ADN, de quatre autres personnes qui passeront en procès le 24 janvier 2014 à Laval, le 14 avril 2014 au Mans, donc dans le cadre de la lutte anti-THT, pour refus de prélèvement ADN, refus de se soumettre à la prise de photos et aux empreintes digitales. Donc c'est à suivre. Alors si vous voulez en savoir plus, eh bien, vous pouvez aller sur le site antithtpoint.nolog.org, en fait c'est un blog, et puis l'autre blog, Valogne Stop Castor, tout attaché, noblog.org. Noblog, d'ailleurs, porte un S. Voilà. Alors, par contre, au niveau du fichage ADN, ça s'est passé moins bien à la cour d'appel de Rennes, le 3 décembre, pour Rodolphe, qu'on avait eu d'ailleurs au téléphone dans une de nos émissions, où il passait pour la deuxième fois pour refus de prélèvement ADN et violence imaginaire sur un fonctionnaire de police. Ça se situe dans le cadre de la lutte de Notre-Dame-des-Landes. Notre-Dame-des-Landes, comme vous le savez, on va encore l'entendre malheureusement parler, puisque la victoire, eh bien, n'est pas encore annoncée, c'est moins compliqué. Il faudra se mobiliser sec pour faire vraiment céder ce pouvoir socialo. Eh bien, il a eu dans un premier temps, un mois de prison avec sursis, comme d'habitude. Et là, le procureur, le proc, a demandé la même chose pour son refus d'ADN. Il avait eu en première instance aussi pour violence un gros truc, hein, un an de prison avec sursis. Là, il a eu que 800 euros d'amende et 90 jours quand même de tige. Bon, 90 jours de tige, c'est beaucoup, mais c'est quand même un peu mieux que ces 12 mois de prison avec sursis. Alors, le rendez-vous du procès a lieu le 28 janvier, donc on en reparlera. Mais ce qui est à noter tout de même, c'est que ce procès s'est très mal déroulé. pour Rodolphe, ainsi que son unique témoin, un certain Jérôme Torel, qui a écrit un bouquin sur l'ordre sécuritaire. Ils n'ont pas pu politiquement s'exprimer devant le tribunal, qui voulait absolument entendre parler que des faits et de la personnalité du prévenu. Ça n'a pas empêché d'ailleurs l'avocat général de présenter Rodolphe comme un farouche anti-système. Et lui, il ne fait pas de politique, hein, ce cher monsieur, qui manque de reconnaissance envers les services de l'État, qui accorde généreusement à lui et à sa famille un RSA pour vivre. Voilà ce type d'argument donné par l'avocat général et pour clouer le bec à Rodolphe, qui lui voulait faire de la politique. Mais non. Voilà, alors là aussi vous pouvez avoir des nouvelles sur ce procès, donc dont le rendu a lieu le 28 janvier, et bien tout simplement sur le site de la ZAD, et d'ailleurs sur le site de la ZAD vous pourrez comme ça avoir d'autres nouveautés, ZAD donc .nadir.org, Nadir, NADIR.org. Voilà, ensuite, comme j'en suis toujours au refus d'ADN, il y a quelqu'un qui a d'autres problèmes encore plus importants, c'est un certain Jean-Charles, qui le 14 janvier 2014 à Mont-de-Marsan va passer pour la troisième fois pour refus d'ADN, donc pour le même délit d'ailleurs, toujours le même, à chaque fois il est condamné et à chaque fois on lui repropose de donner son ADN et bien évidemment il refuse. Alors ce qui est symptomatique, c'est que ce Jean-Charles se bat contre le missile M51. Il demande le respect du traité de non-prolifération des armes nucléaires par la France. Et à chaque fois qu'il y a un nouveau tir d'essai de ce missile, eh bien, tous les flics viennent, la gendarmerie viennent le voir pour lui proposer justement de cracher son ADN. Et à chaque fois, il refuse. Ça veut dire trois fois déjà. Et à chaque fois, il passe en procès. Donc, ça va être la troisième fois. Comme quoi, finalement, on va vers un délit continu. Hein, c'est-à-dire que à cause du fait que, bon, bah, finalement, ça ne s'arrête jamais. Tant que vous n'avez pas donné votre ADN, même si vous avez été condamné, même si vous avez fait la peine, eh bien, ça peut encore vous arriver. Alors, le contact, c'est l'association Négajoule, dans la mairie de la BARP, B-A-R-P, 33114, le BARP, B-A-R-P. Donc, comme je vous le disais, donc, c'est pas du côté de Bordeaux.
Alors, apparemment, ça fonctionne. Ouf. Mieux vaut tard que jamais. On va essayer. Et puis, donc, on se retrouve dans 25 minutes.
En permanence.
Et non, alors là vraiment c'est la malédiction totale. Hein. On avait presque cru que ça allait commencer.
On nous balade d'une catastrophe naturelle à une attaque terroriste, d'un nouveau régime alimentaire à une nouvelle famine, des histoires de cul d'une star à la corruption d'un homme politique, d'une guerre de religion à un miracle économique, d'une nouvelle pub alléchante au cliché d'une complainte contre le gouvernement sur un plateau de télé, des astuces pour devenir l'amoureux idéal aux astuces pour éviter que les supporters sportifs partent en émeute, de nouvelles bavures policières à de nouveaux problèmes de santé.
On retrouve le même processus partout, dans les gouvernements démocratiques comme dans les gouvernements totalitaires, dans les multinationales comme dans les petites entreprises familiales, dans les cheeseburgers comme dans le tofu, dans l'opéra comme dans la musique country ou le rap, dans tous les pays et dans toutes les langues. Dans les prisons, les écoles, les hôpitaux, les usines, les bureaux, dans les zones de guerre ou dans les épiceries. Quelque chose aspire nos vies et nous les recrache en pleine gueule sous forme d'images.
Ce truc-là est produit par notre propre activité, notre travail de tous les jours, nos vies vendues heure après heure, semaine après semaine, de génération en génération. Nous n'avons ni propriété, ni business pour faire de l'argent. Du coup, on est bien obligé de vendre notre temps et notre énergie à quelqu'un d'autre. Nous sommes la classe ouvrière, aujourd'hui, les proles.
Travail mort qui, comme un vampire, ne vit qu'en pompant du travail vivant. Et plus il vit, plus il en pompe. Karl Marx. Nous ne travaillons pas parce qu'on en a envie. Nous travaillons parce que nous n'avons pas d'autres moyens pour gagner de l'argent. Nous vendons notre temps et son énergie à un patron afin d'acheter les choses dont nous avons besoin pour survivre. On nous a regroupés entre travailleurs et assignés à différentes tâches. Nous avons des compétences spécifiques et recommençons sans cesse les mêmes tâches, encore et encore. Notre temps de travail ne fait pas vraiment partie de nos vies. C'est du temps mort, contrôlé par nos patrons et nos managers. Au travail, on passe son temps à faire des choses que nos patrons peuvent vendre, que ce soit des objets comme des chemises en coton, des ordinateurs ou des immeubles, des prestations comme laver les sols ou des malades, Madame. Ou des services Madame. Comme conduire un bus, servir dans un restaurant ou téléphoner à des gens pour leur vendre des trucs inutiles. En vrai, nous ne faisons pas le travail pour produire des marchandises. On travaille pour être payé et le patron nous paie pour en tirer des profits.
À la fin de la journée, les patrons réinvestissent les bénéfices de notre labeur pour accroître leurs affaires. Notre travail constitue une partie de ces choses que nos patrons possèdent ou vendent, le capital. Ils sont toujours à l'affût de nouveaux moyens pour transformer notre activité en marchandises, de nouveaux marchés pour les vendre, et d'autres personnes qui n'ont rien à vendre, à part le temps et leur énergie. Ce qu'on gagne au travail, c'est assez d'argent pour se payer le loyer, la bouffe, des vêtements et de la bière. Assez pour qu'on y retourne. Quand on n'est pas en train de bosser, on passe son temps à aller au boulot et à se préparer pour le taf, à se reposer parce qu'il nous épuise, ou à nous brûler la gueule pour l'oublier. La seule chose pire que le boulot, c'est de ne pas en avoir. Alors, on perd son temps à en chercher un sans être payé. Quand il y a des aides sociales, c'est la galère pour en avoir. Et c'est pas autant qu'un salaire. Le chômage qui plane comme une menace permanente nous pousse à aller au boulot tous les jours. Et c'est sur notre travail que se construit cette société. La puissance de nos patrons s'accroît à chaque heure que nous passons au turbin. C'est ce qui fait leur force et assied leur domination dans tous les pays du monde.
Au boulot, on est à la merci de nos patrons et de leurs intérêts financiers. Mais cela va plus loin. C'est comme si une main invisible continuait à nous imposer une discipline horaire et une régularité monotone en dehors de nos heures de travail. Vivre devient une sorte de spectacle que nous regardons de l'extérieur et sur lequel nous n'avons aucun contrôle. Toutes nos activités ont tendance à devenir aussi aliénantes, ennuyeuses et stressantes que le travail, que ce soit le ménage, les devoirs ou les loisirs. C'est ça le capitalisme.
C'est quoi ça? Les patrons se sont remplis les poches. Dans ce monde pourri, il n'y en a que pour les riches. Et tu sais quoi? Tu me crois ça? Les patrons se sont remplis les poches. Dans ce monde pourri, il n'y en a que pour les riches. Et tu sais quoi? Tu me crois ça? Les patrons sont remplis les poches. Dans ce monde pourri, il n'y en a que pour les riches. Et tu sais quoi? Tu me crois pas. Les patrons sont remplis les poches. Dans ce monde pourri, il n'y en a que pour les riches. Et tu sais quoi? Tu me crois pas. Les patrons sont remplis les poches. Dans ce monde pourri, il n'y en a que pour les riches. Et tu sais quoi? Tu me crois pas.
Anti-travail. Évidemment, les capitalistes sont très satisfaits du capitalisme. Pourquoi ne le seraient-ils pas? Ils s'enregistrent grâce à lui. Alexandre Berkman. Le travail est vécu de manière très différente, suivant de quel côté on se trouve. Pour les patrons, le travail est un moyen de faire encore et encore de l'argent. Pour nous, c'est une façon misérable de survivre. Moins ils nous paient, moins on en fait. Plus ils veulent nous mettre au boulot, plus on en chie. Nos intérêts s'opposent. Il y a une lutte permanente entre les patrons et les travailleurs au boulot, comme dans le reste de la société, puisqu'elle est fondée sur le travail. Plus cher nous payons un loyer ou un type de transport, plus nous aurons à bosser pour pouvoir payer. Le niveau actuel des salaires, les bénéfices, les heures et les conditions de travail, aussi bien que les politiques du gouvernement, l'art ou la technologie, sont définis par le niveau actuel de la lutte des classes. Se battre pour nos propres intérêts, au sein de cette lutte plus vaste, est le point de départ pour saper les bases du capitalisme.
Communauté. Eh bien, il est temps que chaque rebelle prenne conscience que le peuple et la classe ouvrière n'ont rien en commun. Joe Hill. La civilisation est profondément divisée. La plupart d'entre nous passent le plus clair de leur temps au boulot, et la plupart sont pauvres, tandis que les propriétaires, riches dans l'ensemble, organisent notre travail et en profitent. Toutes les communautés et institutions existantes se sont élaborées à partir de cette division fondamentale. Il y a les divisions et des communautés fondées sur des critères ethniques, culturels et linguistiques, sur le genre ou l'âge. Il y a la communauté nationale et citoyenne, autant que la division entre les nations et entre ceux qui ont des droits et ceux qui n'en ont pas. Nous sommes unifiés ou séparés par une religion ou une idéologie. Mais nous sommes tous rassemblés pour acheter et vendre, pour faire fonctionner le marché.
Certaines de ces identités sont presque millénaires. Certaines sont issues directement de notre façon de travailler. Quelles qu'elles soient, toutes sont organisées désormais autour du capital. Elles facilitent la tâche des patrons, qui ne cessent de transformer notre temps mort en marchandises. Et elles maintiennent l'esprit de la division fondamentale qui empêche que la société ne se déchire. Les gens pauvres d'un pays peuvent se sentir proches de leurs patrons de leur pays, alors même qu'ils feront peut-être la guerre à d'autres pauvres d'une nationalité différente. Les travailleurs ont du mal à faire la grève avec d'autres travailleurs qui ne leur ressemblent pas et parlent une langue différente. Surtout, s'il y a un autre groupe pour penser qu'il est meilleur que l'autre. Les séparations et les communautés se reflètent les unes les autres à travers la division des tâches dans le monde du travail.
Tandis que d'une part, les divisions et les séparations communautaires nous sont imposées, on nous vend de l'autre une communauté humaine universelle. Cette communauté est tout aussi imaginaire que fausse. Elle nie la division fondamentale de la société. La bourgeoisie dirige le gouvernement et les médias, les écoles et les prisons, les services sociaux et la police. Elle dirige nos vies. Les journaux et la télévision nous imposent leur vision du monde. Les écoles nous enseignent l'histoire glorieuse, ou peu glorieuse, de leur société et produisent une bande de diplômés ou d'exclus qui seront affectés à différentes tâches. Le gouvernement pourvoit des emplois pour que leur société continue de ronronner. Et si ça ne marche plus, il leur reste encore la police, les prisons et l'armée. Ce n'est pas notre communauté.
Anti-communauté. Le pouvoir que la bourgeoisie conserve à notre époque réside dans le manque d'autonomie et d'indépendance d'esprit du prolétariat. Anton Pankouk. Ils nous organisent les uns contre les autres, mais nous pouvons nous organiser ensemble contre eux. Tout l'intérêt de parler de classe et des proles, c'est d'insister sur le simple fait que des personnes issues de différentes communautés ont des expériences essentiellement similaires, et de montrer que des membres de la même communauté devraient en fait se haïr. C'est le point de départ pour combattre les communautés existantes. Lorsque nous commençons à nous battre pour nos propres intérêts, nous voyons que d'autres font la même chose. Les préjugés s'effondrent, et notre colère se redirige là où il faut. Nous ne sommes pas faibles parce que nous sommes divisés parce que nous sommes faibles. Les communautés existantes commencent à être niées en étant attaquées, et commencent à être attaquées en étant niées. Le racisme et le sexisme commencent à être remis en question lorsque des prolétaires hommes et femmes de différentes origines combattent côte à côte leurs ennemis de classe. Et cette lutte devient plus efficace en rassemblant des gens de différentes communautés.
Il ne sera plus nécessaire de remplacer tout ce qui peut s'acheter ou se vendre quand il n'y aura plus besoin de mesurer le temps de travail nécessaire à la fabrication de ces marchandises. Cela ne sera possible que lorsque nous produirons des objets et agirons pour satisfaire un besoin, et non pour les échanger. Il n'y aura plus besoin d'un gouvernement pour diriger la société quand la société ne sera plus divisée entre dirigeants et travailleurs, lorsque nous pourrons diriger nos vies nous-mêmes. Il n'y aura plus besoin de communauté nationale ou ethnique, et alors il pourrait apparaître une communauté humaine, quand la société ne sera plus divisée entre les pauvres et les riches. Pour créer ces conditions, il faut combattre celles qui existent. Cette tendance à créer du commun en combattant les conditions de nos vies, le travail, l'argent, l'échange, les frontières, les nations, les gouvernements, la police, la religion et les communautés, a été appelée il y a longtemps communisme.
Politique. Plus nous sommes gouvernés, moins nous sommes libres. The Alarm, journal anarchiste de Chicago des années 1880. Le gouvernement est le modèle de l'activité politique. Les politiciens qui représentent différents pays, régions ou communautés se battent les uns contre les autres. Nous sommes encouragés à soutenir les politiciens avec lesquels nous sommes le moins en désaccord et nous ne sommes jamais réellement surpris lorsqu'ils nous trahissent. Tous les politiciens d'origine ouvrière ou qui ont des idées radicales ne valent plus rien une fois au gouvernement. Peu importe qui gouverne, le gouvernement a sa propre logique. Le fait que la société soit divisée en classes ayant des intérêts opposés implique qu'elle peut sans cesse exploser. Le gouvernement est là pour que cela n'arrive pas. Peu importe que le gouvernement soit une dictature ou une démocratie, il détient toutes les armes et les utilisera contre sa propre population pour faire en sorte que nous continuions à travailler.
Il n'y a pas si longtemps, des événements troubles dans tel ou tel pays pouvaient conduire à la nationalisation des industries de ce pays, à la création d'une police d'État. Et on appelait ça le communisme. Cette sorte de capitalisme, en fait, a prouvé qu'il était moins efficace et moins flexible que ce bon vieux capitalisme libéral. Depuis la chute de l'Union soviétique, il n'y a plus eu d'armée rouge pour annexer des pays et les maintenir dans cette voie. Et les partis communistes du monde entier sont devenus simplement sociodémocrates. Un parti politique qui représente la classe ouvrière est une contradiction en soi. Non pas parce que les membres d'un tel parti ne seraient pas des ouvriers, mais parce que tout ce qu'il peut faire, c'est offrir une représentation politique aux ouvriers. Le parti permet à nos représentants de mettre en avant des idées sur la façon dont nos patrons devraient diriger cette société, sur la manière dont ils peuvent faire de l'argent en nous gardant sous leur contrôle. Qu'ils prônent nationalisation ou privatisation, plus d'aide sociale ou plus de police, ou les deux, les programmes des partis politiques sont autant de stratégies différentes pour faire marcher le capitalisme.
Malheureusement, la politique ne se limite pas au gouvernement et aux partis. Les leaders des communautés, les militants professionnels et les syndicats veulent se placer entre les travailleurs et les patrons. Ils jouent les médiateurs, les négociateurs, les porte-parole, les représentants. Au final, ils veulent être les garants de la paix sociale. Ils se battent pour garder cette place. C'est pour ça qu'ils ont besoin de pousser les travailleurs à des mobilisations encadrées. Qui ne risquent pas d'exploser contre les politiciens jugés trop capitalistes. À la disposition desquels, pourtant, ils continuent de mettre une force de travail. Cela signifie qu'ils doivent nous diviser quand nous commençons à nous défendre. Ils le font en négociant des miettes et en nous vendant tout simplement. Les politiciens nous incitent toujours à voter, à rester tranquilles, à laisser les responsables négocier et à nous ranger derrière les leaders et les spécialistes dans une sorte de participation passive. Les autres politiciens, ceux qui ne sont pas au gouvernement, permettent à ceux-ci de maintenir la paix sociale. Et en retour, ils font leur beurre sur notre misère. Les groupes politiques sont bureaucratiques. Ils reproduisent la structure du travail, où l'activité est dirigée de l'extérieur. Ils créent des spécialistes de la politique. Ils s'organisent selon un principe de division entre leaders et suiveurs, entre représentants et représentés, entre organisateurs et organisés. Pourquoi ne pas mettre une bonne dose de démocratie participative pour tout arranger dans le fonctionnement de ces organisations? Après tout, le rôle des partis et des mouvements politiques, c'est de gérer le capitalisme. La seule chose qui nous intéresse dans la politique, c'est sa destruction.
Ce qu'on vous propose, c'est de déclarer que c'est les syndicats responsables. Et vous nous ajoutez un cas. On est pas responsable pour ça. On est responsable syndical.
Ça, il aurait fallu le faire tout à l'heure. Vous voyez, on a trop traîné, monsieur.
Anti-politique. L'anarchisme n'est pas une belle utopie, ni une idée philosophique abstraite. C'est un mouvement social des masses laborieuses. Groupe Diélo Trouda, 1928. Quand on se met à lutter contre les conditions qui règlent nos vies, on entre dans un mouvement radicalement différent. On n'attend pas qu'un politicien change les choses à notre place. On le fait nous-mêmes, avec d'autres prolétaires. Quand cette résistance de classe s'embrase, les politiciens tentent de l'éteindre à coups de pétitions, de lobbying et de campagnes électorales. Mais quand nous luttons pour nous-mêmes, cela n'a plus grand-chose à voir avec tout ça. Nous détournons les biens des propriétaires et nous nous les réapproprions. Nous utilisons des tactiques d'agitation contre nos patrons, qui se finissent en affrontement avec la police. Nous formons des groupes où tout le monde peut prendre part à l'action, où il n'y a plus de division entre les leaders et ceux qui suivent. Nous ne nous battons plus pour nos chefs, nos patrons ou notre pays. Nous nous battons pour nous-mêmes. Ce n'est pas la forme ultime de la démocratie. Nous prenons ce que nous avons à prendre, sans négociation, car dans cette société, nos besoins sont directement en contradiction avec les intérêts et les souhaits des riches. De toute façon, on ne pourra jamais parler d'égal à égal avec eux. Cette tendance de la lutte des classes à dépasser et combattre les gouvernements, les partis et la politique, cette tendance qu'ont les révoltés à ne compter que sur eux-mêmes a été nommée il y a longtemps anarchisme.
Guerre. Dévastons les avenues où vivent les riches. Lucy Parsons, anarchiste américaine du début du XXe. Et ouais, on est dans une guerre de classe. Il n'y a pas d'idées, de propositions et de stratégies organisées qui peuvent mener, a priori, à notre victoire. Il n'y a pas d'autre solution que de gagner cette guerre. Tant qu'ils ont l'initiative, nous sommes séparés, nous sommes passifs. On ne peut apporter qu'une solution individuelle à nos conditions de vie. Démissionner de notre boulot, déménager dans des quartiers pas chers, se fondre dans une contre-culture ou une bande, se suicider, jouer au loto, picoler ou scammer, elle a l'église. Leur monde semble être l'unique horizon. Tout espoir de changement reste imaginaire, séparé de notre vie quotidienne. Le business continue, avec son lot de crises et de destruction. Et quand nous pensons à l'attaque, nous commençons à nous reconnaître et à combattre collectivement. C'est nous qui faisons tourner la société. C'est nous qui avons les moyens de la ravager. On se met en grève, on sabote, on part en émeute, on déserte, on se mutine, on se réapproprie la propriété, on s'organise pour élargir et renforcer notre mouvement. De nouvelles possibilités s'ouvrent.
Nous devenons plus audacieux et plus agressifs quand nous luttons pour nos propres intérêts de classe. Nous ne voulons ni former un nouveau gouvernement, ni devenir de nouveaux patrons. Nous voulons en finir avec cette façon de vivre et donc avec la société qui est basée sur cette façon de vivre. Nous sommes la classe des travailleurs qui voulons abolir le travail et les classes. Nous sommes la communauté de ceux qui veulent foutre en l'air les communautés existantes. Notre programme politique, c'est de détruire la politique. Pour cela, nous devons appuyer les tendances subversives qui existent aujourd'hui jusqu'à ce qu'elles bouleversent la société de fond en comble. Il y a un temps, c'est ce qu'on appelait la révolution.
Allez, nous voilà de retour sur les Grégoires. Vous avez vu, on a changé de voix pendant pendant une demi-heure. Bon, on essaiera de je ne promets rien, puisque comme vous le savez, en technique, parfois on est un peu limité. On essaiera de mettre directement le son sur le site pour que ceux et celles qui voudraient l'utiliser pour leur soirée de Noël, par exemple, ou pour l'offrir comme cadeau, puissent le faire. Alors, on va avoir donné quelques nouvelles du meilleur du monde quand même, puisque c'est dans celui-ci qu'on vit. Tout à l'heure, tu parlais des policiers et de leur petite manie à se présenter comme des victimes. Il n'y a pas qu'à Reims, c'est incroyable. Ça se passe également à Paris, puisque la semaine dernière, lundi dernier, vers 18h, au niveau de la station de métro de la Cité du Lutte, qui est une énorme cité à Gennevilliers, bien connue, quelques camarades qui distribuent un petit bulletin qui s'appelle « Résistons ensemble », un bulletin qui s'axe sur l'analyse de la société autoritaire telle qu'elle est aujourd'hui et puis de ses dérives judiciaires et des violences policières.
Ouais, c'est un bulletin mensuel.
C'est ça.
C'est-à-dire que vous pouvez retrouver sur le site Antidélation.
C'est ça.
Il est publié sur le site Antidélation, mais aussi il est bien connu au niveau d'Internet.
Et puis c'est un bulletin qui est la plupart du temps en général alimenté par des faits qui sont rapportés par les gens eux-mêmes, c'est-à-dire que souvent ce sont les gens qui viennent signaler à ce petit bulletin. Il y a en général une page d'analyse qui traite de l'actualité, mais son objectif c'est aussi de collecter l'ensemble des violences qui pourraient avoir lieu ou des crimes racistes qui pourraient avoir lieu de ci de là, pour que justement les gens puissent se mettre en lien, résister ensemble, et puis surtout pour que tout ce qui se passe ne reste pas dans le silence ahurissant de l'anonymat. Donc évidemment, vous imaginez bien que c'est pas quelque chose qui fait plaisir aux flics, et nos camarades qui distribuaient ce bulletin ont été interpellés en fait par les flics. Ils ont été emmenés au commissariat et on leur a pris leurs empreintes digitales, on leur a interdit d'appeler des gens, notamment un camarade qui a pas pu appeler son enfant pour le prévenir qu'il sera en retard. Et puis on les a relâchés au bout de quelques heures, publicisant cette interpellation somme toute assez illégale, puisque une vérification d'identité ça peut s'effectuer à l'extérieur, et d'une part, si le règlement de la RATP, qui, c'est toujours intéressant de le rappeler, est un des 5 ou 6 dernières lois qui relève de l'État français de Vichy, puisque le code des transports publics est régi par la loi de janvier 1942. et qui interdit de distribuer des tracts sur les quais et sur les comment ils appellent ça, les voies d'accès justement à ces quais. Et oui, vous imaginez bien pourquoi à l'époque le secteur des transports était extrêmement réglementé. Et ben on l'a gardé ça, parce qu'on garde quand même les choses de l'État français de Vichy, ça peut toujours servir. Et donc vous imaginez bien que nos camarades étaient bien au courant de ça et étaient bien en retrait sur le trottoir, sur la voie publique, et il y a rien qui interdit de distribuer des tracts sur la voie publique, quoi. Donc il n'y avait aucune raison de les interpeller, à part évidemment de les intimider, mais aussi pour leur signaler que il y avait une plainte pour diffamation qui avait été adressée par le commissaire du commissariat de Gennevilliers, puisque en fait déjà le 17 avril nos camarades avaient été également interpellés par les mêmes policiers, les mêmes policiers de Gennevilliers, par la BAC, qui s'était arrêté en mode BAC, évidemment, c'est-à-dire avec les caméras et l'impression qu'on vit dans un film avec ces gens-là en permanence, c'est incroyable, une espèce de film américain permanent, qui les avait déjà embarqués et qui leur avait évidemment non seulement confisqué les affiches et les tracts, mais ils leur avaient pas rendu et avaient refusé évidemment de leur délivrer un reçu, puisque également eux ils présidaient que c'était une audition libre, Et pas une garde à vue dans le cas d'audition libre, il est autorisé d'obtenir des refus de la part de la police. C'est-à-dire que si vous êtes convoqué au commissariat à titre d'audition, vous pouvez repartir avec un reçu qui vous permet de vous excuser si vous êtes en retard, en tous les cas d'en laisser une trace. Et bien là, ni l'un ni l'autre. Hein. Non, mais c'est clairement une tentative d'intimidation. Et alors, connaissant les camarades, il est évidemment clair qu'eux, ils vont pas cesser intimider. Hein. Mais qu'il faut quand même faire attention parce que tout à fait le genre de choses qui peut ensuite on dirait déboucher sur des choses un peu plus hard quoi. Et pour cela il est impératif de publiciser tout ça et d'élargir pour éviter que ça se transforme en un espèce de corps à corps ou d'individu contre flic de Gennevilliers, parce que là il est évident que dans la rue comme devant la justice il y a fort peu de chances de gagner, sauf de quelques cas quand on a un juge qui se réveille apparemment, ou à qui reste, ça devait être un remplaçant, peut-être que les autres étaient en vacances. Et voilà, mais de toute façon, c'est pas des gens qui se laissent faire, mais bon, vous voyez, hein, il n'y a pas qu'à Reims que les flics se permettent d'être comme une bande en fait dans leur ville, quoi. Voilà.
Voilà, peut-être que... Alors, on va peut-être parler du bilan de la vidéosurveillance. Ah. Comme vous le savez peut-être, en Angleterre, c'est là où la vidéosurveillance a connu un développement incroyable, et en particulier dans le métro londonien. Mais en fait, c'est de plus en plus remis en cause en Angleterre. Nous, non pas en tant que, comme en France d'ailleurs, hein, on va le voir après, non pas comme étant un truc contre le fichage, hein, et ces gens-là remettent en cause finalement l'efficacité de ces caméras qui ne seraient pas finalement tout ce qu'on attendait d'elles au niveau de la répression, au niveau du fichage des gens. Eh bien en France on en est là aussi maintenant, petit à petit, puisqu'il y a le ministère de l'Intérieur qui vient de lancer une étude, un marché public en fait, pour réalisation d'une étude quantitative et qualitative sur l'efficacité de ces caméras. Eh oui, le ministère de l'Intérieur en France. Et puis il y a eu un rapport d'information qui vient de sortir du sénateur du Parti Vert placé. Enfin, c'est plus Parti Vert, mais alors, c'est Europe Écologie Les Verts. Le fameux sénateur placé qui a eu quelques petits problèmes, là, je crois, au niveau de sa vitesse automobile.
C'est ça, ouais. Il totalise plus d'une dizaine de milliers d'euros d'amendes impayées. Mais vous inquiétez pas, hein, il va les payer avec ses indemnités, ça va être saisi. En fait, par vous, quoi, en fait. voilà ce qu'on fait de votre
position. Alors, ce cher sénateur, il a fait un rapport d'information pour le Sénat, donc, et dans ce rapport, il y a un truc étonnant, c'est le titre, en parlant de la vidéosurveillance, c'est marqué « Un investissement à fonds perdu ». Ah bon ? Il n'y a même pas d'ailleurs de point d'interrogation, hein, il n'y a même pas de point d'exclamation, non, ça paraît logique. Alors il faut dire que la note est salée pour l'État, hein, puisque ça a coûté au moins 133,6 millions d'euros de 2007 à 2012, hors Paris. Et à ça, bien sûr, faut ajouter Paris. Et c'est ainsi qu'une grande partie de ce fric a été consacrée à 2500 projets portés par des collectivités territoriales ou des groupements de communes concernant l'implantation de plus 21 000 caméras recensées de 2010 à 2012. 21 000 caméras en 3 ans. Il y a eu en plus 66 centres de supervision urbaine par la police municipale par du temps. Il y a eu 106 transports d'images vers les services de police ou de gendarmerie. Par ailleurs, il y a eu 21,7 millions d'euros qui ont permis d'aider l'installation de dispositifs de vidéosurveillance chez les bailleurs sociaux, dans les établissements scolaires et les organismes de transport. Et voilà, ça coûte cher. Alors, le cas de Paris, c'est 1106 caméras sur la voie publique, 10 000 caméras environ dans le métro, les gares, les grands magasins, les musées, etc. Toutes ces installations ont été financées par un partenariat public-privé. Le coût total du contrat sur Paris s'élève sur 15 ans à environ 252 millions d'euros, dont 16,5 millions d'euros pour cette année 2013. Alors, la première institution française à avoir posé le problème de ce gâchis est évidemment la Cour des comptes, qui effectivement en a parlé, et puis le Sénat s'y met maintenant et demande quand même s'il n'y aurait pas un moratoire à décider, alors qu'ils vont normalement voter une recommandation dans ce rapport numéro 5. Alors je vous lis, décider d'un moratoire sur les investissements relatifs à la vidéosurveillance dans l'attente d'une étude scientifique indépendante sur les apports véritables de la vidéosurveillance en termes de sécurité. Alors, termes de sécurité, il développe, en termes de taux d'élucidation, évidemment, de lutte contre la délinquance, évidemment, de prévention, de sentiment de sécurité, d'aspects psychosociaux, de suppression de la présence humaine, de garantie des libertés publiques. Ah bon, à la fin quand même, hein. À noter qu'un appel d'offres, a été lancé, je vous l'avais dit, au niveau du ministère de l'Intérieur. Donc, en France, on y vient petit à petit. La vidéosurveillance, finalement, avec les caméras un peu partout, ça ne donnerait pas forcément des résultats qui intéressants pour la police et la gendarmerie, puisque, effectivement, comme on le sait, on le sait depuis longtemps, la délinquance, de toute façon, quand elle existe, elle se déplace, ça c'est évident. Qu'en plus, la plupart de ces caméras ne servent à rien. Mais en plus, si tu veux, ça a un rôle psychique vachement important, puisque ça paralyse finalement les gens. En particulier, on l'a pu le voir, nous, dans des manifestations, ça te paralyse, ça te fait en sorte que finalement, ce que tu faisais avant, tu le fais plus. Par contre, un petit bombage par-ci, un petit collage d'affiches sauvage par-là, tu fais plus parce que t'as peur des caméras. Mais
peut-être qu'on peut émettre une hypothèse, peut-être que les caméras de vidéosurveillance, c'est pas fait pour la sécurité. Ou pour lutter contre la sécurité, je sais pas, hein.
C'est pour contrôler.
Ah bon? Ah merde.
Mais même là, si tu veux, c'est pas évident que ça soit très efficace, hein.
D'accord.
Parce que la plupart du temps, ça prend la chevelure des gens, voir s'ils sont chauves ou pas chauves,
voir s'ils ont une capuche ou pas.
Une capuche ou pas, mais comme la capuche est fermée, c'est foutu. Voilà. Alors on y reviendra peut-être.
Je sais pas. Bon, il nous reste quelques secondes. Non, pas du tout. On va, qu'est-ce qu'on va dire? Ah, ben, on va dire je sais pas si vous en avez déjà parlé, mais si vous voulez vous faire un cadeau de Noël, abonnez-vous à Courant Alternatif, hein. Il y a le numéro 235 de décembre qui ne vient pas de sortir puisqu'on est déjà le 20, donc on n'avait pas encore parlé. Dans le numéro de ce mois-ci, qu'y a-t-il? Il y a une tentative de réflexion sur le mouvement social qui se passe en Bretagne, baptisé des bonnets rouges, mais on va pas utiliser cette expression-là parce que c'est une expression médiatique, donc on essaye de réfléchir à ça. Notamment, vous pouvez aussi réécouter les émissions qu'on a fait à ce sujet avec le camarade breton qui nous faisait grâce de ces analyses. Il y a également un retour sur les 30 ans de la marche pour l'égalité. Tiens, on en avait parlé aussi. Donc voilà, vous pouvez compléter. Ah, c'est complet, hein, les Grégor. Il y a le papier et l'audio. Il y a un article très intéressant sur la forêt. Ouais. La gestion des ressources forestières et le rapport qu'on peut avoir à la forêt, quoi. Comment elle devient une source de revenus, une source de capital. Et puis il y a tout un tas d'autres choses, toutes plus intéressantes les unes que les autres, mais ça on vous laissera la surprise de découvrir.
Surtout au niveau international.
Ouais.
Bon, alors si vous voulez avoir ce numéro de Courant Alternatif, n'hésitez pas. Y-Grégor, boîte postale 12-13-51-058 Reims, CEDEX. C'est pas 51, c'est pas grave. De toute façon, par internet, ça marche très bien. Allez, on se quitte. C'était donc les Grégor, une parole anarchiste communiste. Chaque semaine, sur les collègues à Montpellier, Canassu à Toulouse et Radio Primitive sur Reims.
De la rationalité économique et de la rationalité de l'État. Alors nous, on la considère ni fatale, pas du tout. On ne la considère pas fatale. Il y a une petite métaphore qu'on pourrait dire aux enfants. Le vampire, il semble très fort, mais il ne peut pas se passer des gens qui vampirisent. Tandis que les filles, les hommes et les femmes qui sont vampirisés, ils pourraient très bien vivre sans les vampires.
Moi, je vous propose de vous retirer maintenant, messieurs de la police.